Chères chaises, chers frères, chères sœurs, c'est un privilège de pouvoir nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu qui s'est incarnée en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement un livre, c'est une personne qui nous a parlé non seulement par des discours, mais par des gestes, par le sens qu'il a donné à sa vie, par l'acceptation de la mort sur une croix. Dieu ainsi nous a parlé par son Fils, mieux que par tous les prophètes, plus définitivement, plus décidément. Nous sommes privilégiés, nous qui vivons de ce côté-ci de l'histoire, c'est-à-dire en 2016, après Jésus-Christ. Privilégiés par rapport à ceux qui ont vécu avant et dont ils n'ont eu que la vision lointaine. Ce sont des héros de la foi de l'Ancienne Alliance, ces prophètes, ces rois qui ont sondé les temps, les circonstances, qui ont exprimé quelque chose dans leurs poèmes, dans leurs chants, dans leurs paroles, parce que l'Esprit du Christ était en eux, dit l'Écriture, c'est-à-dire les inspirait et attestait par avance les souffrances du Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais nous sommes de ce côté-ci de l'histoire. Et je le répète, nous pouvons être reconnaissants pour ce privilège. J'ai choisi deux textes, un justement dans le Premier Testament et l'autre dans le Nouveau, des textes qui se répondent d'une certaine manière et qui sont le signe de cette présence déjà au temps des prophètes, de Moïse, cette présence déjà de l'Esprit du Christ qui préparait les choses qui nous étaient destinées. Lévitique, chapitre 14, versets 1 à 7. Le Seigneur parla à Moïse et dit « Voici quelle sera la loi sur le lépreux pour le jour de sa purification. On l'amènera devant le prêtre. Le prêtre sortira du camp et il examinera le lépreux. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, le prêtre ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié deux oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi, et de l'hysope. Le prêtre ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre, sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang de l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Il en fera sept fois l'aspersion sur celui qui doit être purifié de la lèpre. Puis il le déclarera pur et il lâchera dans les champs l'oiseau vivant. Étrange procédé, mais qui nous parle, nous le verrons. Maintenant, nous allons dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 11. Verset 28. Ayant ainsi parlé, Marthe s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il t'appelle. » Je me souviens qu'en Suisse, dans l'église où j'ai été baptisé, il y avait cette petite phrase à l'entrée qui m'a beaucoup touché. La première fois que je suis entré pour écouter l'Évangile dans cette église. Le Maître est ici et il t'appelle. Et ça reste vrai. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure pas ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, ici, dehors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Seigneur, par ton esprit, assiste-nous maintenant. Et ouvre nos yeux sur ce que tu as à nous dire. Amen. Nous connaissons tous, peut-être par cœur, le récit de la résurrection de Lazare, les interventions de Marthe et de Marie, etc. Dans cet évangile de Jean, le récit de la résurrection de Lazare constitue un sommet, un aboutissement. Il révèle à la fois la gloire de Dieu dans le Christ Jésus, mais aussi il prélude à la passion du Christ. Car c'est à partir de cet événement que les chefs religieux décideront une bonne fois de faire mourir Jésus. C'est cela que le verset 4 de ce chapitre 11 de Jean nous annonce. Après avoir entendu cela, c'est-à-dire la nouvelle de la maladie de Lazare, Jésus dit « Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, c'est par elle que le Fils de Dieu doit être glorifié. » Il y a comme un enchaînement entre la mort de Lazare, sa résurrection et ses conséquences, c'est-à-dire faire mourir Jésus. Jésus et Lazare sont deux destins croisés. Un oiseau mort et un oiseau vivant. Deux destins croisés. Dans l'évangile de Jean, je vois plusieurs correspondances entre Jésus et Lazare. Par exemple, au chapitre 1er, verset 38, deux disciples de Jean-Baptiste suivent Jésus et lui demandent « Rabbi, où demeures-tu ? » Et Jésus répond « Venez et voyez » ou « Venez et vous verrez ». Et au chapitre 11, verset 34, Jésus pose une question quasiment identique. « Où l'avez-vous mis ?» Et ils lui répondent « Seigneur, viens et vois. » C'est curieux. Deux rencontres qui se ressemblent. Il y a quand même une différence. Les disciples de Jean-Baptiste demandent à Jésus où il demeure. Quel est son domicile ? Et la réponse de Jésus est ambiguë. Il n'y en a pas son adresse postale, ni même son email. Venez et voyez. Jean laisse une porte ouverte là. Quelle est la demeure de Jésus ? Eh bien, moi, je vais vous le dire. C'est la maison du Père qui s'ouvre à nous en son nom et où il y a beaucoup de demeures. Il habite la maison du Père où la vie surabonde. C'est le seul endroit où Jésus peut dire « Moi, je suis ». Je suis vivant d'une vie incommensurable que je désire partager avec vous. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi avec moi, c'est-à-dire dans la maison du Père. Quand est-ce qu'on y entre ? Vous avez une petite idée ? Quand est-ce que nous entrons dans la maison du Père pour être avec Jésus ? Au moment de la foi, de la conversion, la nouvelle naissance. N'attendez pas le ciel pour y croire. Croyez-le maintenant. Jésus partage avec moi sa place dans la maison du Père. Quel privilège ! Nous ne sommes pas à l'entrée comme les quatre mendiants qui étaient à la porte de Samarie et qui attendaient la mort. Nous sommes entrés. Il nous accueille à sa table. Nous partageons son abondance. Alléluia. Donc, premier point commun entre Jésus et Lazare. Où habites-tu ? Où l'avez-vous mis ? Il y a une différence entre le fait d'habiter quelque part et puis d'être réduit à une chose qu'on met quelque part. Où l'avez-vous mis ? Deuxième point commun, le tombeau avec la grande pierre devant, ça ne vous rappelle rien. Roulez la pierre, ôtez la pierre. Ce sera l'affaire des anges pour Jésus. Mais c'est aussi notre affaire. Ôtez, vous qui êtes là, ôtez la pierre pour que l'intervention de Dieu puisse se faire. Il faut parfois ôter des pierres, de l'incrédulité, de l'ignorance. Encore un point commun. Lazare sort du tombeau, les pieds et les mains attachés par des bandes et le visage enveloppé d'un linge. Pourquoi ces détails ? Ces détails renvoient à la résurrection de Jésus, où on retrouvera les bandelettes et le suaire, le linge qui voile la face du Christ. Et c'est à nous aussi, là, d'enlever, de délier les bandelettes et d'ôter les linges. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Un autre point commun qui réunit Lazare et Jésus. Au chapitre 12, les grands prêtres délibèrent de faire mourir aussi Lazare parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. C'est vrai que beaucoup de nos frères et de nos sœurs aujourd'hui partage encore ce point avec Jésus. On les fait mourir, pensant ainsi effacer les dernières traces du christianisme. Vains efforts. Ce croisement de destin m'a fait penser à la loi sur la purification des lépreux. C'est pourquoi je vais commencer par ce texte-là. Il fallait prendre deux oiseaux, dont l'un doit mourir et l'autre est relâché vivant, porteur du sang de l'oiseau mort. Destin croisé, qui symboliquement annonce l'Évangile. Nous étions tous des lépreux. Quelqu'un a dû mourir pour que nous puissions vivre en liberté, purifiés. Les islamistes nous appellent les croisés. Ils ont tort, parce qu'ils pensent aux croisades de sinistre mémoire et dont ils voudraient éternellement se venger. Mais dans un certain autre sens, ils ont raison. Nous sommes les croisés. Jésus nous a croisés. Notre destinée a croisé celle de Jésus, ou plutôt la destinée de Jésus a croisé ma destinée, mon histoire. Il a changé mon destin en endossant mon destin. Jésus a pris ma mort et il m'échange, me donne sa vie. N'est-ce pas un privilège de le comprendre ? Tout change. Tout change. J'ai été croisé par le Christ. Plus rien n'est comme avant. Si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Tout change, tout a changé. En lisant ce chapitre 11 de Jean, j'ai eu longtemps une question. Ça me semble quand même bizarre. Ces pleurs de Jésus, son émotion, alors que tout au long du récit, Jésus n'a cessé de parler de manière, comment j'allais dire, triomphaliste, pleine d'assurance. Par exemple, au verset 4, « La maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. » Curieux. Est-ce qu'il ignorait ? Non, il n'ignorait pas. Ailleurs, un peu plus loin, il dit même aux disciples qu'il se réjouissait de ne pas avoir été présent au moment de la mort de son ami. C'est curieux, ça. Et qu'il y voyait même l'intérêt des disciples. Je me réjouis de n'être pas là, de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. C'est à cause de vous, afin que vous croyiez. Est-ce qu'il ne l'aimait pas tant que ça, alors, s'il l'aimait, Lazare ? Mais c'est curieux, cette façon de parler. De plus, au verset 22 et 24, il déclare à Marthe, péremptoirement, « Ton frère ressuscitera. » Et moi, je suis la résurrection et la vie. C'est une parole de commandement, c'est une parole royale. Et pourtant, Jésus pleure. Et il est saisi d'un trouble. Il fut troublé. Enfin, devant le tombeau, n'affirme-t-il pas la ferme assurance d'être exaucé toujours ? Pendant longtemps, je me dis, mais ça colle pas. Comment peut-il parler de façon aussi assurée, souveraine, et puis en même temps s'effondrer en pleurs, en présence de Marie, puis devant le tombeau. Car Jean le précise deux fois. Il fut saisi d'une violente émotion. Il a rencontré Marthe. Après un dialogue avec elle, il rencontre Marie. Et là, tout change. Il est profondément ému et troublé. Il n'y a pas de dialogue, mais il passe à l'action. Pourquoi Jésus connaît-il ce trouble? Le mot grec est tarasso. Ce mot exprime un sens multiple. Troublé, bouleversé, affolé, angoissé, agité, secoué, effrayé. Et il y en a encore d'autres. C'est un mot très, très lourd de sens. Pourquoi Jésus connaît-il ce trouble? Qu'est-ce qu'il l'angoisse? Et puis, il y a aussi un autre mot à propos de l'émotion qui le saisit, et Jean la cite deux fois, au verset 33 et au verset 38. Ce mot traduit un sentiment d'irritation et de sévérité profonde. Pourquoi cela? Je ne pense pas que cela vise Marthe et Marie ou quiconque des présents, mais plutôt le spectacle de ce à quoi Jésus doit consentir. Il va falloir accepter sa propre mort. Et ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour Jésus. Vous savez aussi, vous connaissez la scène du jardin de Gethsémané, où Jésus livre un combat extraordinaire pour finir par choisir de boire la coupe que le Père lui tend. Ce n'est pas facile. Pour que Lazare puisse aller de la mort vers la vie, Jésus doit s'abîmer de la vie dans la mort. Et ça lui coûte d'un prix inestimable. Destin croisé. Alors, qu'est-ce que ça peut nous dire aujourd'hui? Eh bien, par exemple, je pense au baptême. Être baptisé et participer au repas du Seigneur, dans la suite logique, c'est reconnaître que ma vie a changé, que j'ai été croisé par celle de Jésus. Être baptisé, c'est faire une croix sur le passé. Dès lors, ma destinée n'est plus soumise à la fatalité du mal, au fatum, aux automatismes qui dominent la vie des gens parfois. Ma destinée n'est plus soumise aux forces spirituelles de ce monde. Non, j'ai été soustrait aux forces de l'univers, ce que Paul appelle les éléments de l'univers. Dès lors, je n'ai plus à redouter les dispositions astrales, les lignes de la main. Je n'ai plus à craindre les tabous alimentaires, vestimentaires. C'est fini. Il n'y a plus de tabous alimentaires, vestimentaires, auxquels je devrais être conformé pour que rien de mauvais ne m'arrive. C'est fini. Nous sommes libres. Je n'ai plus besoin de pendre un Saint-Christophe à ma voiture. Ou une croix. Parce qu'il y a des moments où les croix deviennent des talismans. Je n'ai plus à faire ça. Je n'ai plus à craindre l'horoscope. Je n'ai plus à redouter les oracles, les prévisions, les prédictions. Je n'ai même plus à redouter l'actualité. Parce qu'on nous annonce un avenir plutôt sombre. Mais tout est dans les mains de Jésus, n'est-ce pas? Il a croisé ma route. Il a croisé ma destinée. Il a croisé la destinée de tous. Le seul problème qui demeure, c'est l'ignorance des gens. Mais nous sommes là pour le leur dire. Jésus a croisé ta route. Mais peut-être comme les pèlerins d'Emmaüs, tu ne l'as pas encore reconnu. Oui, être baptisé, participer au repas du Seigneur, c'est reconnaître cela. C'est aussi être éternellement reconnaissant à Jésus-Christ. Et ce matin, nous avons loué le nom de Jésus, avec raison. Être éternellement reconnaissant de ce qu'il a assumé sur la croix, ma destinée d'homme pécheur, réprouvé et déchu. Il a pris sur lui tout ça. Et il m'a donné à la place ma qualité de fils ou de fille du Dieu vivant. Il y a une noblesse. Il m'a anobli. Il y a un psaume qui le dit très bien, le psaume 113. Du fumier, il relève le pauvre. De la poussière, il relève le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Paul disait, je n'ai pas honte de Jésus-Christ, de l'Évangile. Soyons fiers. Non pas de nous-mêmes, mais le roi n'est pas mon cousin. C'est mon frère. Il a fait de nous des princes dans son royaume. C'est l'adversaire qui voudrait nous faire croire autre chose, qui nous dit « t'es un minable, regarde, sois réaliste, tu t'es encore encoublé. » Oh pardon, ça c'est suisse. « Tu as encore trébuché. » Elles sont tellement fréquentes, les occasions de désespérer de nous-mêmes, d'être ébranlés. « Mais non, rien n'a changé en réalité. » Si, tout est différent. Tout est différent. Pour celui qui appartient à Jésus-Christ. Il nous a libérés des héritages ancestraux. Vous savez, les péchés des ancêtres. Il y en a qui en font leur spécialité. Mais c'est oublier la croix. Sur la croix, tous les péchés ont été portés. Ceux des ancêtres, les miens, ceux de nos enfants, tout. Tout est pardonné. C'est quand même étonnant qu'un hebdomadaire satirique que je ne lisais jamais, vous voyez de quoi je veux parler, Charlie Hebdo, au lendemain des attentats, ait cette phrase étonnante. Tout est pardonné. Qu'est-ce que ça veut dire dans leur esprit? Je ne sais pas. Mais dans mon esprit, c'est une grande vérité. Oui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même par le nom de Jésus-Christ. Pourquoi brûler des cierges? Pourquoi aller en pèlerinage? Pourquoi courir à gauche, à droite? Tout est donné, tout est pardonné, généreusement, ici, maintenant. Les pharisiens demandent à Jésus, quand viendra le royaume de Dieu? Il leur répond, mais le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Il est au milieu de vous. Ah, que nous avons de la peine à le croire parfois. Paul dit, j'ai été crucifié avec le Christ. Il ne s'agit pas de mortification, de renoncement, d'ascèse, mais c'est un fait. Sur la croix, je suis mort. Tu es mort. Tu es mort. Pas comme les petits-enfants qui jouent aux cow-boys, aux indiens ou à je ne sais quoi. Pouf, tu es mort. Mais non, c'est pas vrai. Eh bien, si c'est vrai, nous avons été crucifiés, comme le dit Paul. J'ai été crucifié avec le Christ et désormais ce n'est plus moi qui vis. Sous le regard de Dieu, c'est Christ qui vit en moi. Dieu voit Christ. Quand il me regarde, il voit Christ. Parce que j'ai confessé ma foi. Bien sûr, il ne s'agit pas de vivre dans un cant à soi. Oui, moi c'est ce que je crois. Il faut qu'un jour la foi devienne explicite, qu'elle s'exprime. Et le rassemblement des chrétiens, le baptême, la table du Seigneur sont là pour nous aider, nous donner l'occasion d'exprimer une foi qui ne peut pas rester cachée. Elle ne peut pas être du domaine privé. Je pense que c'est une manière. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Au début de ma vie chrétienne, après ma conversion, je voyais le baptême comme un truc un peu folklorique. Et puis un jour, j'ai compris, mais Jésus a été baptisé. C'est public. Et ce jour-là, Dieu a témoigné, celui-là, c'est mon fils bien-aimé. Et là, j'ai pris la décision. Et en fait, j'ai compris que cette décision me déliait et me laissait aller. Parce qu'il y a encore cette dernière phrase. Voyez-vous, dans Luc et dans Jean, on trouve deux récits de résurrection. Luc, c'est la fille de Jaïrus. Et dans Jean, c'est Lazare. Deux récits qui se terminent par une injonction pratique. À Jaïrus, il dit, donnez-lui à manger à cette jeune fille adolescente. Elle a faim. Donnez-lui à manger. Et après la résurrection de Lazare, déliez-le et laissez-le aller. C'est ainsi que, je le crois, nous sommes invités à agir à notre tour. Une résurrection, ça se met en œuvre. À prendre soin de cette vie rendue et promise à une nouvelle résurrection. Oui, prendre soin, très concrètement, les uns des autres. Mais aussi de celles et de ceux qui, dehors, sont autant que nous appelés à ce carrefour, ce croisement en Jésus-Christ. Ça, ils ne le savent pas, il faut qu'on leur dise. Mais peut-être pourrions-nous leur dire déjà, par le partage de nos biens, une main secourable. Les gens ne croient pas à la résurrection, c'est trop gros pour eux. Mais s'ils voient ce qu'elle produit dans nos vies, alors là, ce ne sera pas de la théorie. Donnez-moi à manger. Et puis aussi, déliez-le et laissez-le aller. Il s'agit de comprendre quelque chose du pardon. Le pardon délie et libère. Si Jésus le dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. En fait, quand la relation est rompue par le mal, il nous appartient de délier et de laisser aller le coupable. La résurrection de Jésus, ainsi, polarise une histoire universelle qui n'est plus abandonnée au chaos, comme on pourrait le croire quand on regarde le journal, quand on écoute les nouvelles, on se dit mais... Non, l'histoire n'est plus abandonnée au chaos, elle a été croisée par celle de Jésus, elle est donc promise promise au renouvellement de toute chose. Mon prochain a besoin de pain. Le repas du Seigneur veut en accueillir beaucoup d'autres et nous invite au partage. Mon prochain a besoin de pardon et de liberté. En déliant et en laissant aller celles et ceux que nous avons enveloppés dans nos jugements, le pardon mutuel donné au nom de Jésus délie et libère notre frère, notre sœur, appelé à sortir vers la lumière au nom de celui qui en a fait autant pour nous. Amen. Que Dieu nous soit en aide, comme Diana lui a demandé, t'as raison, nous disons amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.